journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission, l'émission où vous avez la parole pour intervenir en direct. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Hashtag JDA. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire recherche opposition désespérément. Après le boycott des élections sénatoriales, quelle sera la stratégie de l'opposition ivoirienne en 2020 lors de la présidentielle? Faut-il plutôt parler des oppositions au regard du nombre de coalitions et de leur défiance les unes envers les autres? Nous en parlerons avec l'un de ces ténors, l'un des ténors de l'opposition, Bamba Mori Ferré. Il est l'un des pères aussi du multipartisme en Côte d'Ivoire, ancien président du Conseil constitutionnel, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI. Parti membre de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. Pour poser vos questions à notre invité, nous faire part de vos commentaires, je rappelle le numéro 01 55 07 58 00. Mais avant de vous prendre en direct, on se tourne vers le répondeur pour une séance de rattrapage de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour amis auditeurs. J'appelle là pour un Camerounais qui a appelé pour les passeports camerounais. Alors, déjà, à tous les Camerounais qui sont là tout le temps en train de dénigrer le Cameroun n'a pas de double nationalité. Et quand on demande à quelqu'un de faire son passeport, on lui demande 125 euros. Alors, ceux qui sont là toujours en train de dire n'importe quoi, parce qu'ils ont détourné des sous au Cameroun, ils viennent se réfugier à l'étranger pour dénigrer leur pays. Alors, je suis contre ces gens-là et je veux les combattre. Je veux un changement au Cameroun, mais ce n'est pas un changement en disant du n'importe quoi pour le Cameroun. Alors, monsieur, fermez votre bouche et ne dites plus du n'importe quoi sur ce que vous ne savez pas. Si vous voulez vous renseigner, vous reportez, vous allez sur Internet, vous avez tous les renseignements. Merci.
Bonjour, Africa numéro 1. Bonjour. Vous avez invité sur votre radio Imam Youssouf Sarr pour le Sénégal, pour le parrainage. Moi, je vous dis que tous ces imams-là, c'est eux qui nous ont fait notre position là où nous sommes au Sénégal. Pardon. Tous ces politiciens-là, tous ces imams-là, c'est des politiciens, tous. Ça fait 60 ans que ça dure. Et donc, ils parlent du parrainage. Même le président, il se sauvait parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, peut-être il va y avoir des dérapages à Dakar. Le président, là où je parle, là, il est ici en France. Pour que le temps que ça se déroule, ces parrainages là au Sénégal, donc pour se mettre à l'abri. Donc lui, il est venu ici parce qu'ils savent que là-bas il n'y a pas de sécurité pour lui, donc il est venu se réfugier ici. Donc je vous dis que nous on n'a pas de peuple. Tous ces gens là, et c'est tous des politiciens. C'est quoi ces associations, des imams, c'est quoi? Imam Youssouf Sarr, il s'y connaît rien du tout. C'est tous des politiciens. C'est tous des corrompus. Donc c'est pour ça que le pays là, ça va jamais aller à l'avant. Ouais. Merci beaucoup, Africa numéro 1. Au revoir.
Bonjour, Africa numéro 1. Bonjour aux éditeurs et aux éditrices d'Africa numéro 1. Moi, j'aimerais juste intervenir par rapport au Sénégal et ce que Macky est en train d'entreprendre. Voilà un monsieur qu'on a élu, nous, au Sénégal, avec beaucoup d'espoir, qui nous a déçus, qui a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues, notamment le mandat de 7 ans qu'il devait ramener à 5 ans. Pendant 4 ans, de 2012 à 2015, il a tourné partout au niveau international pour dire qu'il allait réduire son mandat à 5 ans, chose qu'il n'a pas faite. Il nous avait promis une justice indépendante et ce n'est pas le cas. On a vu la mainmise de l'exécutif sur la justice sénégalaise, au point qu'un magistrat, le juge Dem, a démissionné pour dire le malaise qu'il existe au niveau de la justice sénégalaise. Merci à vous et bonne journée.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. En fait, je vous appelle, c'est pour réagir par rapport à la situation politique au Sénégal. En fait, nous lançons un appel à tous les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, ce jeudi 19 avril, de se retrouver tous au consulat du Sénégal pour manifester notre mécontentement au pouvoir anarchique de Macky Sall. Nous demandons à tous de sortir nombreux parce que tout simplement Macky Sall veut aller dire que le Sénégal c'est sa propreté, c'est même pas un pays finalement, c'est devenu une monarchie. Donc nous disons non. Macky Sall même avait lancé un appel à tout le peuple sénégalais contre Abdoulaye Wade en 2012 pour le changement de constitution. Et lui-même, il fait pareil. Il avait même dit que c'est un coup d'État constitutionnel. Et c'est ce que nous sentons qu'il est en train de mener dans notre pays. Et venez nombreux pour dire non et pour lui barrer la route, parce que ce changement de constitution ne passera pas. Parce que c'est tout ce que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1. La semaine passée, le vendredi passé, la France, les États-Unis, l'Angleterre ont décidé d'aller attaquer, d'aller bombarder soi-disant les cibles où se produisent, où on produit les gaz toxiques, on produit les gaz hilarants en Syrie. Bon. Ils sont allés bombarder, ils ont atteint les cibles. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Mais, ce qui m'étonne, aujourd'hui on me dit qu'il y a les experts de l'OIAC qui vont y aller pour aller vérifier les preuves. Ah bon, mais vraiment, je me demande. Et les preuves ont été établies, soi-disant, voilà pourquoi ils ont bombardé. Mais maintenant, ils envoient des gens pour aller chercher les preuves. Ça me laisse pantois, quoi. Merci à vous et à tous les auditeurs. Salut.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci à Mandile Pofou qui les a sélectionnés comme chaque jour. Aujourd'hui, dans le JDA, une question. L'opposition ivoirienne peut-elle renaître de ses cendres? Nous en parlons tout de suite avec Bamba Moriferé. Bonjour. Merci d'être avec nous, Bamba Moriferé. Vous êtes ancien président du Conseil constitutionnel, président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI, et président de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. Première question, Bamba Moriferé, s'il vous plaît. Vous venez de rencontrer l'ancien président Laurent Gbagbo, détenu actuellement à la prison de la Cour pénale internationale. Tout d'abord, comment va-t-il?
Je voudrais d'abord rectifier. Je ne suis pas ancien président du Conseil constitutionnel. Je suis ancien ministre.
Toutes mes excuses.
Ancien député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale.
Autant pour moi.
Voilà. J'ai rencontré le président Laurent Gbagbo et nous avons discuté pendant près de 3 heures sur la situation politique préoccupante de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans le même cadre que j'avais rencontré l'ancien président Henri Konan-Bédier et que j'avais rencontré également le professeur Francis Vanga-Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel. Mmh. Il s'agit là de leaders de très haut niveau en Côte d'Ivoire et compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays, nous avons pris l'initiative au niveau de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire, de rassembler les Ivoiriens, l'opposition et les autres dans le cadre d'un front commun pour faire échec à la tentative du président Alassane Ouattara de confisquer le pouvoir.
On va en parler, si vous voulez bien, monsieur le ministre. Je vous demandais des nouvelles de Laurent Gbagbo. Si vous avez discuté pendant 3 heures avec lui, c'est qu'il va bien?
Il va très bien, il était en possession de tous ses moyens et j'ai trouvé quelqu'un qui reste très combatif.
Alors son nom justement, Bamba Moriferé, son nom entre l'opposition, est-ce qu'il a encore une influence sur la vie politique ivoirienne?
Écoutez, il a un parti politique qui est le Front Populaire Ivoirien, qui est un parti qui se porte très bien et qui a une grande audience en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut savoir que mon interlocuteur à moi, c'est Laurent Gbagbo, parce que nous sommes liés par plusieurs décennies de combats politiques ensemble. J'ai rencontré Laurent Gbagbo dès 1962 au lycée classique. Nous avons été partenaires au sein du mouvement étudiant, ensuite au sein du CINARES, et également dans les années 80-90, c'est nous. Et nous sommes battus face au président Houphouët-Boigny à l'époque pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, je le rencontre parce qu'il continue, évidemment, d'avoir une influence en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Vous avez entendu l'avocat Mignard qui disait que si on libère le président Gbagbo, bon, il va aller faire des meetings avec ses partisans.
C'est l'avocat de la Côte d'Ivoire hein, dans le dossier.
Donc il est toujours influent et puis de toute façon c'est lui qui a créé ce parti. Et donc la première personne avec qui je devais discuter c'était lui. Et je sais également qu'il est très au courant de la situation en Côte d'Ivoire. Déjà en 1990 avec Laurent Gbagbo, nous avions mis en place la coordination des quatre partis de la gauche démocratique. Ce sont ces quatre partis qui ont permis d'avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Plus tard, en 1994, nous avons mis ensemble en place le Front républicain. Donc, vous comprenez qu'il était tout à fait normal que j'aille m'entretenir avec le président Laurent Gbagbo.
On comprend tout à fait. Alors, je vous l'avais dit il y a quelques instants, hein, que votre volonté est aussi de rassembler les Ivoiriens. Je le disais en introduction, il faut parler des oppositions ivoiriennes, hein, parce qu'il y a au moins trois coalitions. L'Alliance des forces démocratiques AFD, hein, avec notamment Pascal Affine-Guessant, qui revendique aussi hein, la présidence du Front populaire ivoirien. Il y a la plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, avec l'autrel hein, du FPI, dirigé par Abdourahmane Sangaré. Et puis, il y a votre coalition, hein, plutôt récente, il me semble, Debout, Sauvons la Côte d'Ivoire. Alors que vous militiez hein, auprès d'Abdourahmane Sangaré dans le Front du refus contre la Constitution en 2016, pourquoi avoir choisi de créer une autre coalition d'opposition au lieu d'essayer de trouver des points de convergence avec les autres coalitions ?
Eh bien, d'abord, je voulais rétablir les choses. Abdourahmane Sangaré était membre, avant donc la nouvelle constitution, il était membre du Front du Refus. Et moi, quant à moi, j'étais président de la coalition du Non. Nos deux coalitions se sont rencontrées à l'époque et nous nous sommes retrouvés dans l'unité d'action. Et c'est à ce moment-là que nous avons organisé différentes manifestations. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche similaire, puisque Abdourahmane Sangaré se retrouve aujourd'hui membre d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et nous, nous sommes dans la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. Évidemment, il y a des convergences, parce que chaque coalition à sa base opérationnelle, si je peux m'exprimer ainsi, mais nous avons en commun la défense de la démocratie en Côte d'Ivoire, de l'état de droit, l'exigence de la libération des prisonniers politiques, et puis la réconciliation nationale et l'unité nationale. Et donc, nous allons nous retrouver effectivement sur la base de ce qu'on appelle une plateforme minimale commune.
D'accord.
Et c'est la démarche tout à fait ordinaire. Il est question aujourd'hui que les différentes coalitions se retrouvent ensemble, y compris avec d'autres organisations.
Y compris avec l'Alliance des forces démocratiques ?
Ça, c'est un autre débat. C'est la raison pour laquelle je suis venu rencontrer le président Laurent Gbagbo. Si nous mettons en place la grande coalition, ben, tout le monde peut y adhérer en fonction, comment dirais-je, de la position des uns et des autres. Mais c'est la raison pour laquelle moi je suis allé d'abord rencontrer le président Laurent Gbagbo. Vous savez, c'est lui le fondateur du Front populaire ivoirien et j'étais là quand ce parti se créait, donc je sais d'où vient ce parti.
Est-ce qu'il vous a parlé de Pascal Affine-Guessant qui a répété encore hier hein, que Laurent Gbagbo le recevra un jour ou l'autre ?
Nous n'avons pas parlé de Pascal Affine-Guessant.
Mais on entend bien, vous me confirmez, Bamba Moriféré, avant de donner tout de suite la parole aux auditeurs, vous me confirmez que vous vous sentez quand même plus proche de l'EDS, hein, la coalition hein, où il y a Abdourahmane Sangaré, que celle que de l'AFD.
Oui, naturellement, puisque, si vous voulez, pour moi, mon interlocuteur, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui doit me dire avec qui je dois discuter. Vous comprenez ?
On entend, hein, quand vous répondez à cette question, finalement, que peut-être que Laurent Gbagbo aussi a fait son choix, hein, entre les deux ailes du Front Populaire Ivoirien. Restez à l'écoute, Bamba Moriféré, s'il vous plaît. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs qui sont nombreux à vouloir s'exprimer. On commence par JR. JR, bonjour.
Oui, bonjour, Stéphane.
Bonjour, JR. Vous constatez, si je lis bien ma fiche, qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire.
Oui, il n'y a pas d'opposition parce que, je dis qu'il n'y a pas d'opposition parce que celui qui est là, un dictateur, il ne veut pas d'opposition en face de lui. C'est ce que je veux dire. Parce qu'Alassane, on a traité celui qui est parti des dictateurs, l'ex-président Laurent Gbagbo qui est à la haie. Pour avoir refusé de dire que bon, devenir conscient, on dit qu'il était dictateur. Presque tous les journaux en ont parlé, il est parti. Aujourd'hui, on a un président qui se dit démocrate, qui est en Côte d'Ivoire au pouvoir, et qui ne veut pas d'opposition en face de lui. Et la presse aujourd'hui n'en parle pas. On a 300 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire en prison depuis 2011. Ces jeunes sont dedans, d'autres sont morts. Et d'autres ne sont jamais été présentés à un juge d'instruction pour dire « Ah, de quoi on les reproche ?» Non, mais ils sont là-bas. Ahmed Bayako les a mis là-bas. Il y a encore un dernier qu'on a jugé et qui a fait sa peine. Et aujourd'hui, qui est encore là-bas. T'as vu, c'est ce que je veux savoir. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'opposition, parce que celui qui est là ne veut pas avoir d'opposition en face de lui.
Le procureur refuse de parler de prisonniers politiques. Vous dites celui qui est là ne veut pas d'opposition en face de lui. Bon, pourtant, hein, il y a quand même un député de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Il a fait une guerre sans travail avec lui, puisque la preuve en est que l'autre, comment on l'appelle, l'ancien ambassadeur, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Gbagbo, qui a fait à la haie, Assis Kakou. Il travaille avec chose Alassane. Il était à l'ONU avec chose à Pinguessa. Donc, ils sont ensemble. Ils sont dans le même parti. C'est le RHDP qui sont là. À Pinguessa, n'est pas l'opposant. Vous venez d'écouter Bamba Moriféré. Il vient de consulter Gbagbo Laurent pour savoir avec qui il veut composer. Et vous avez bien dit qu'il n'a pas parlé d'Afi Nguessa avec lui. C'est-à-dire qu'Afi Nguessa n'est pas du FTI. Ça, il faut que vous le compreniez. Alassane l'a choisi pour pouvoir diviser l'opposition pour qu'il règne. Bon. C'est ce qu'il a fait. Il a choisi Afi Nguessa avec lui, qu'il collabore. Sinon, il ne vous représente pas le FTI. Ça, il faut que vous le mettez ça dans votre tête. C'est clair et net. Voilà.
Merci JR. On va demander à Bamba Moriféré ce qu'il pense du fait qu'il n'y ait pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Bamba Moriféré, vous avez entendu l'auditeur, hein, JR, qui dit finalement voilà, on a un pouvoir qui tue toute opposition. Bon, qu'en pensez-vous?
Écoutez, Alassane Ouattara est le fossoyeur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il l'a prouvé. C'est une donnée essentielle. Depuis 2011, effectivement, les acquis démocratiques qui ont été acquis par notre peuple sont mis en cause par M. Alassane Ouattara. Je donne un petit exemple sur le plan universitaire. Nous avons obtenu du président Houphouët-Boigny depuis les années 80 que les doyens des facultés soient élues par leur père. Mais depuis 2011, quand M. Alassane Ouattara est arrivé, il demande à son ministre de l'enseignement supérieur de nommer les doyens. Il en est de même pour le président du conseil de l'université.
Pour vous, ce sont des attentes à la démocratie, ça?
Non, mais c'est très grave. Vous savez, il va jusque-là. Maintenant, à côté de ça, vous savez, les conditions dans lesquelles il a mis en place sa nouvelle constitution. Il n'avait pas l'initiative d'une nouvelle constitution. J'étais membre du gouvernement en 2000, quand nous avons mis en place la constitution du 1er août 2000. Cela a été fait après la mise en place d'une commission constitutionnelle qui regroupait toutes les forces vives de la nation. Il y a eu un débat démocratique. Malgré cela, il y a des dispositions conflictuelles de cette constitution qui ont amené à la guerre en Côte d'Ivoire. Et vous le savez, les différents
acteurs... Vous le reconnaissez, Bamba Moriféré.
Bien sûr. Et au cours des différentes réunions, il a été convenu qu'il fallait réformer cette constitution et non mettre en place une nouvelle constitution. Alassane Ouattara a décidé tout seul de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution et les juristes à l'époque avaient montré qu'il n'en avait pas l'initiative. Il a mis en place une commission d'experts à laquelle il a indiqué tous les actes de cette constitution. Nous nous sommes opposés à cette constitution, mais cette constitution aujourd'hui existe de façon frauduleuse, puisque vous le savez vous-même.
Mais elle a été quand même soumise à référendum. Bamba Moriféré, on va accélérer, vous savez, l'émission passe très vite. Hein. On va revenir sur le rôle de l'opposition.
C'est pas l'Assemblée nationale en 48 heures. La campagne électorale a duré une semaine. L'opposition n'a pas eu droit au chapitre.
Non, l'opposition, puis, Bamba Moriféré. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. L'opposition a boycotté ce référendum. L'opposition a boycotté les dernières élections sénatoriales. Vous avez tenté donc de faire échec à cette nouvelle constitution. Vous avez échoué. Est-ce que l'opposition ivoirienne ne se caractérise pas actuellement par une succession d'échecs et peine finalement à exister en refusant de participer à la vie politique ?
L'opposition n'a jamais refusé de participer à la vie politique, madame.
Le boycott, par exemple.
Non, mais attendez, le boycott, nous avons boycotté le vote de la nouvelle constitution parce que c'était illégal et illégitime. Et d'ailleurs, nous avons demandé aux Ivoiriens de ne pas voter. Ils ne sont pas allés voter. M. Alassane Ouattara a donné des chiffres imaginaires. Cette constitution...
42% de taux de participation.
Il n'y a pas eu 10% de participation au vote. Et donc, c'est de manière frauduleuse. C'est pour cela que la commission électorale aujourd'hui est mise en cause par toute la classe politique. Et donc, vous ne pouvez pas dire que nous avons échoué. Alassane Ouattara a imposé cette constitution aux Ivoiriens. Vous avez vu la constitution du 1er août 2000, ce qu'elle est devenue, les problèmes qu'il y a eu. Nous continuons à nous battre contre cette constitution. Mais nous savons.
On va retourner.
Notre combat aboutira.
Merci.
Parce qu'il vient de mettre en place un Sénat sur les mêmes bases. Sa propre constitution dispose qu'il doit prendre une loi organique. C'est ce que dit l'article 90. Il a pris tout simplement une ordonnance. Et le corps électoral qui a élu ce Sénat n'existe même pas, puisque les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui l'ont voté ont été élus en 2011. Leur mandat est terminé. Et dans ce Sénat, comment pouvez-vous imaginer qu'il y a deux types de parlementaires ? M. Alassane Ouattara, il nomme un tiers des sénateurs et deux tiers sont élus.
On entend bien Bamba Moriféré.
Il vient de désigner un président du Sénat par les deux tiers des sénateurs. Mais ce monsieur transforme la Côte d'Ivoire en pire qu'une république bananière.
Bamba Moriféré, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est quand même le journal des auditeurs. Il faut que je redonne un peu la parole aux auditeurs. On entend bien, effectivement, les revendications de l'opposition sur la commission électorale et les suspicions concernant l'instauration du Sénat. On va écouter justement les auditeurs et je vous redonne la parole dans quelques instants. On commence avec Diomo Debeg, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs. J'ai vraiment patienté, Monsieur Bamba Moriféré est en train de monopoliser la parole pour ne pas avoir assez de questions. Ça, je sais, c'est un vrai politicien, je suis d'accord avec lui.
On mais laisse la parler le loyen.
La seule chose que je voudrais demander à Monsieur Bamba Moriféré, Monsieur Bamba Moriféré a été quand même mis dans les poubelles, je peux dire même dans les placards par Laurent Gbagbo, parce que durant tout le gouvernement de Laurent Gbagbo, durant les 10 ans, M. Bamba Moriféré n'a jamais essayé de rencontrer M. Laurent Gbagbo, ça fait un. Et de deux, la coalition qui a fait naître, je crois bien, le multipartisme en Côte d'Ivoire, ce que M. Bamba Moriféré n'a pas ajouté à son CV, c'est l'année blanche. Parce que ça fait l'année blanche en Côte d'Ivoire, 89-90, j'en suis victime. Est-ce qu'il pense que je suis content de ça? Quand il dit aujourd'hui que M. Alassane Ouattara est pire à instaurer la Côte d'Ivoire, pire qu'une république bananière, ben je dis non. Monsieur Bamba Moriféré est acteur positif de la démocratie ivoirienne depuis les années 1990, depuis la création du multipartisme. Monsieur Bamba Moriféré a sa fille et ses enfants qui ont participé à ces élections. Je peux citer Hein, entre autres, Madame Bamba, Afousata Bamba Lamine qui a essayé de contrôler aussi la
cela
position.
Dit, oui, non, mais cela
alors,
dit,
c'est... Alors, comment on peut venir nous berner sur les radios d'Africa numéro 1, M. Bamba Moriféré, dites la vérité aux Ivoiriens.
Calmez-vous, Diomo Debeng, calmez-vous, on a bien entendu. Merci beaucoup, Diomo Debeng. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, Bamba Moriféré, sur la question hein, de la rencontre avec Laurent Gbagbo. Il y a Diaz aussi hein, qui voulait vous la poser. On va y répondre dans quelques instants. On va finir. Écoutez, Claudel, avant de vous retrouver, Bamba Moriféré. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie.
Bonjour, Claudel. Essayez d'éloigner un peu votre bouche du micro, ça sature quand vous parlez.
Vous m'entendez mieux?
Oui, voilà, beaucoup mieux.
Voilà. Alors, je vous disais bonjour. Et d'abord, dire à M. Diomo Debeng qu'il faut qu'il se calme. Dans ce genre de débat, il faut aller posément. Voilà, il doit se calmer. Alors, votre question, c'est est-ce qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai dit tout à l'heure au monsieur qui m'a reçu à l'antenne qu'il n'y a pas d'opposition. Et s'il n'y a pas d'opposition, c'est parce que le pouvoir le veut ainsi. Vous comprenez?
Mais justement, l'auditeur précédent disait que Bamba Moriféré était un acteur de cette opposition.
Non, écoutez. Nous sommes... quand bien même que nous vivons en Europe, on sait ce qui se passe dans nos pays en Afrique. L'opposition en Côte d'Ivoire simplement est ballonnée parce que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que l'opposition existe. Je vous dis, j'ai regardé une émission sur Vox Africa. Je ne fais pas de publicité de cette chaîne-là, où dans cette émission, M. Foucault réunissait des membres du RHDP. Monsieur Bitogo, Monsieur Cissé Mandou, Monsieur Kakabé.
Mais faites vite, Claudel, il nous reste 3 minutes, voilà, top chrono.
Et ces gens eux-mêmes ont reconnu, mais publiquement, que bon, ils étaient gênés parce qu'ils sont les seuls qui s'expriment dans les médias. Il n'y avait pas de voix qui pouvaient s'opposer à ce qu'ils disaient dans leur contradiction. Vous comprenez? Donc tous les faits sont montrent que Monsieur Ouattara. N'a pas envie qu'il y ait une opposition. Oh, c'est dangereux parce que dans un pays, il faut qu'il y ait une opposition forte parce que celui qui est dans l'opposition peut se retrouver au pouvoir tôt ou tard. Vous comprenez?
On entend bien, Claudel.
C'est ça le danger dans ces pays où on modère. Parce que moi, j'ai comme l'impression que ce pouvoir même est accepté, il est modéré, c'est-à-dire qu'on le tolère. Mais en réalité, vous avez vu l'EDS qui a voulu faire une manifestation. À peine qu'ils aient commencé, ils n'avaient même pas encore commencé qu'ils ont été...
Leurs manifestations sont quasi systématiquement interdites. Merci beaucoup, Claudel, de votre contribution. On va donner le mot de la fin quand on va laisser M. Bamba Moriféré répondre, notamment à cette question. Hein. Ils étaient deux auditeurs à vouloir vous la poser. Je répète celle de Diaz. Il dit, pourquoi vous avez attendu tout ce temps pour aller voir le président Gbagbo en prison, nous demande Diaz. Et on rappelle quand même, Bamba Moriféré, que vous avez soutenu Alassane Ouattara en 2010, lors de son élection.
M. Alassane Ouattara est président par défaut. Il y a une situation, parce que le problème dans votre émission, c'est qu'on n'a pas suffisamment de temps pour s'exprimer.
Tout à fait.
Il y a une situation qui a été créée en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et moi, nous en avons parlé. Et si vous voulez, il y a eu des divergences entre nous à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés sur l'essentiel, à savoir la défense de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et vous savez que ce qui a prévalu en Côte d'Ivoire à l'époque, c'est une crise identitaire. Et qui était à un moment donné la contradiction principale. Et c'est dans ces circonstances-là que M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, dans une situation d'ailleurs très controversée. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement vous dire que oui, M. Alassane Ouattara fait tout pour vider la démocratie de son contenu. Mais il y a une prise de conscience aujourd'hui qui fait qu'un front commun est en train de se mettre en place. N'oubliez pas qu'au moment où nous luttions pour le multipartisme sous le président Houphouët-Boigny, il y avait le parti unique. Mais par la mobilisation populaire, nous avons réussi à amener la démocratie et le multipartisme dans ce pays. Sans cette situation, Monsieur Alassane Ouattara ne serait pas aujourd'hui au pouvoir.
Et vous avez encore le peuple à vos côtés, Maury Ferré. On arrive à la fin de l'émission. C'est oui ou non?
Le peuple sera à nos côtés. La démocratie ne sera pas demain un don d'Alassane Ouattara. Ça va être le résultat de la lutte des Ivoiriens.
Merci Bamba Maury Ferré. C'est très clair. Merci Bamba Maury Ferré. D'ailleurs, je dois le dire, vous ferez une conférence ce dimanche en Ile-de-France, justement pour lancer votre coalition. On mettra toutes les informations sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Merci encore Bamba Maury Ferré d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire et président de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. Merci à tous de votre participation. Rendez-vous demain, vendredi, pour la libre antenne du Journal des Auditeurs. Prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa.